Le message qui va suivre vous est présenté par l'Église, la maison du bâtisseur. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifiés en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Et Je voudrais qu'ensemble on élève nos voix. Qu'on passe en mode combat spirituel et qu'on dise de nos voix qu'aux quatre coins de cette ville, la gloire de Dieu apparaisse. Les anges sont en mouvement. Tout le monde dans le monde spirituel est au courant que nous avons un rendez-vous ici. Peut-être que quelqu'un ne sait, ne voit pas ce qui est en train de se passer, mais dans l'esprit, il se passe des choses. Voilà pourquoi depuis plusieurs jours et particulièrement depuis hier, nous rencontrons toutes sortes d'oppositions. Mais Dieu est avec nous et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors je voudrais que l'église que nous sommes, on décrète que ce lieu est saint, que la gloire de l'Éternel apparaisse dans ce lieu, que les anges se mettent en mouvement et que tous les plans préparés d'avance par l'ennemi afin de nuire à ce qui va être fait ici soit totalement annulé au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu se fraye un chemin jusqu'à chacun d'entre nous et qu'elle fasse du bien à nos vies, à nos mariages, à cette église. Et que tous les plans que Satan avait mis en place soient réduits à néant au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'ensemble on peut sceller ces paroles dans le sang de Jésus-Christ et décréter que ce lieu est le quartier général du royaume des cieux et que tout ce qui n'est pas du Seigneur se taise maintenant et à jamais. Alors joins-toi à moi et élève la voix au nom puissant de Jésus-Christ. Matere brokotayaba roketere bahande roke bahanda rabraste kete makore brende katayaba rokete ebaba roke mandare kotaya rokandere broste kete yaba roke maha rokete ebrokotaya babaha rokete ebrokotaya babaha. Le même exercice que tu as fait hier, je vais te demander d'élever la voix avec moi et de consacrer tous les couples mariés et toutes les personnes qui sont en chemin pour se marier. Tu vas déclarer une chose, que si Satan s'était levé pour détruire les couples, détruire les mariages, il est vaincu au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, au son de nos voix, et nous parlons de manière prophétique, nos paroles courent et agissent avec rapidité. Et elles ne reviennent point à nous sans avoir atteint le but pour lequel nous les avons prononcées. À partir de maintenant, dans cette église, et si tu n'es pas de cette église, parce que tu as fait ce pas de foi en venant ici, à partir d'aujourd'hui, tous les mariages sont consacrés au Seigneur. Et nous allons appeler la sanctification sur tous les couples et sur tous les mariages présents et à venir au nom de Jésus-Christ. Et quels que soient les plans de Satan pour amener les couples à l'impureté, il est vaincu au nom de Jésus. Alors élève la voix avec moi et consacre les mariages. Consacre les mariages et décrète que toute forme d'esprit d'impureté recule maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous appelons la guérison sur tous les mariages, sur tous les couples, au nom de Jésus-Christ. Commence d'abord par ton couple, ensuite par les groupes des autres. Si tu es seul, si tu n'es pas en couple, alors fais-le de manière prophétique sur le couple que le Seigneur va te donner demain. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yeah. Nous consacrons les couples, nous te les consacrons, Père, et nous décrétons au nom de Jésus-Christ que toute forme de blocage et de conflit cesse dans ta maison, au nom de Jésus, et toute opposition à quelconque mariage soit stoppée, vaincue et recule. Au nom de Jésus-Christ, adérez-vous de Katayaba, et Ada Yekotayaba, et Mahaye, Yakata, et Katayaba, et Kataye. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, nous te consacrons tous les couples. Si nous avons fait cet événement, Père, c'est parce que au travers de ce séminaire et de cette plateforme, Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, nous voulons que tu parles à ton peuple. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous enseignes les voies à emprunter pour bâtir un foyer prospère et heureux en Jésus-Christ. Trop longtemps, nous nous sommes trompés. Trop longtemps, nous avons cru que nous connaissions la vérité. Mais Père, illumine les yeux de nos cœurs afin que nous comprenions l'espérance qui est attachée à notre appel. Brille, Seigneur. Brille sur nous. Brille sur moi. Ô éternel, mon Dieu. Brille sur ma maison. Brille sur mon couple. Brille sur mon mariage, brille sur mes enfants, et brille sur moi, Seigneur. Reçois toute l'adoration, Père. Toute l'adoration, tu reviens, maintenant et à jamais. Brille sur moi, brille sur moi. Ta grâce brille sur moi, brille sur moi, brille sur moi. C'est ta grâce, Yahweh Papa. Brille sur moi, brille sur moi. Ta grâce brille sur moi. Sur moi, c'est ta grâce. Yeah, yeah. Brille sur moi, et ta grâce brille sur moi, brille sur moi. Oh, c'est ta grâce.
ta grâce.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la personne du Saint-Esprit? Esprit du Dieu vivant, tu as toute la place. Conduis ces moments, inspire ces moments, et que Jésus-Christ seul soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur et pousser un cri de joie? Merci, Seigneur. Makatae. Kurababahan. Merci, Père. Amen. Alors, en t'asseyant, je voudrais que tu trouves au moins 5 personnes et que tu lui dises que la gloire de Dieu brille sur ton mariage au nom de Jésus-Christ.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, sans transition, je voudrais que tu prennes ta Bible dans le livre de Genèse au chapitre 1. Depuis hier, nous avons la grâce de parler d'un sujet extrêmement important. Ce sujet, c'est le mystère du mariage. Dis avec moi, le mystère du mariage. Qui n'était pas là hier? Je vous prie, s'il vous plaît, de lever vos mains. Alors, ceux qui étaient là hier, est-ce que vous pouvez leur dire bien haut et fort, vous avez vraiment raté quelque chose? Où étiez-vous? Quand tu entends parler, quand tu entends un son qui vient, qu'il y a un événement qui arrive et que tu es concerné par cet événement, que ta vie est concernée par cet événement, fais tout pour être là du début à la fin. Car si nous enseignons pendant une heure, à n'importe quelle seconde, le Saint-Esprit peut parler et ça peut totalement changer ta vie. Le sujet du mariage est trop important. Pour ma part, je trouve qu'on ne l'enseigne pas suffisamment dans les églises. Le mariage doit être enseigné pendant des semaines et des semaines parce que trop d'enfants de Dieu font des erreurs, trop d'enfants de Dieu ont des problèmes dans leur foyer. Alors voilà pourquoi il faut prendre le temps d'enseigner sur ce sujet. Alléluia. Et pour ma part, je rends grâce à Dieu de ce que il nous a beaucoup enseigné au travers de nos mariages. Et parce que tout simplement, on a à cœur de... On en a marre de voir les mariages être détruits. Alors le Seigneur nous met à cœur de faire ce genre d'événement. Et ma prière, c'est qu'au travers de la parole de Dieu, tu puisses faire le bon choix, tu puisses avoir le bon comportement avec le bon esprit pour faire en sorte que ton mariage, ton foyer, soit un modèle pour les personnes qui t'entourent. Amen. Car si ton mariage n'est pas un modèle pour les plus jeunes, alors à quoi ça sert de s'être marié? Alléluia. Ok, il faut que je reste connecté à ce que je vais dire. Prends avec moi Genèse chapitre 1, au verset 26. J'attends que tu ouvres ta Bible avant qu'on affiche au mur. Si tu n'as pas ta Bible, tourne-toi vers celui qui est près de toi et dis-lui, s'il te plaît, si je te donne 500 francs, est-ce que tu me permets de lire avec toi? Le mystère du mariage. Alors, verset 26, Genèse chapitre 1, verset 26, il est écrit un texte qu'on a l'habitude de lire, qui est très important. On va lire deux textes et c'est le premier que l'on va lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, dis avec moi qu'il domine, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dis avec moi, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Maintenant, je voudrais que tu ailles dans le livre de Jean au chapitre 2. Livre de Jean au chapitre 2. C'est à partir de ces deux textes-là que l'on va surfer dans l'esprit. Chapitre 2 au verset 1. C'est l'histoire des noces de Cana. Il est écrit ceci. 3 jours après, tu y es, si tu es avec moi, dis amen.
Amen.
3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Dis avec moi, il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Hier, nous avons ouvert l'enseignement. Nous avons ouvert ce sujet en présentant les différentes, si je peux appeler ça, obligations des époux. En tant que femme, la parole de Dieu nous a révélé que la femme, pour être heureuse dans son mariage, doit être soumise à son mari. Dis avec moi, la femme doit être soumise. Si tu veux avoir les détails et l'explication de cela, alors écoute l'enseignement d'hier. Ainsi que l'homme, pour qu'il soit heureux dans son mariage, il doit aimer son épouse. Si l'homme n'aime pas son épouse, c'est pas qu'elle ne sera pas heureuse. C'est que lui ne peut pas être heureux. L'homme, et quand on regarde le sujet du mariage, on se rend compte que c'est souvent l'homme qui est plus concerné. C'est souvent l'homme à qui Dieu attribue le plus de responsabilités en ce qui concerne le mariage. Dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme reçoit l'instruction de ne pas manger les fruits de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, la femme n'avait même pas encore été formée. Donc, la femme, Dieu ne peut pas l'indexer directement. Même si elle aussi a été punie, mais l'homme a pris une sanction bien plus lourde parce que c'est à lui qu'on avait dit, tu ne toucheras pas au fruit. Et quand il voit son épouse faire la bêtise, il est juste à côté. Parce que la Bible dit qu'elle prit du fruit et lui en donna. Ça veut dire qu'il avait assisté à toute la conversation avec le serpent. Donc c'était un acte de haute trahison. Amen. Donc ces deux prérogatives-là sont super importantes. La femme doit être soumise à son épouse. Soumise veut dire être sous sa mission. Et l'homme doit aimer son épouse. Voici déjà les deux premières choses très importantes pour rendre un foyer heureux. Si tu violes ces deux lois-là, tu ne peux pas être heureux dans ton foyer. Maintenant, quand on rentre encore plus en profondeur dans le mystère concernant le mariage, une chose très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est Dieu qui a créé le mariage. Dis avec moi, c'est Dieu qui a créé le mariage. Et quand on a un problème avec le mariage, quand ça ne va pas dans notre couple, quand ça ne va pas à la maison, il faut revenir à la parole de Dieu, il faut revenir au jardin d'Éden. Alléluia. Car c'est là que le premier mariage a été célébré. Et la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés en même temps. Car l'homme et la femme ont été créés esprits. Nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas faits de chair. Nous sommes d'abord esprits. Amen. C'est très important. Et ensuite, le deuxième texte que je vous ai fait lire nous parle aussi d'un mariage. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus-Christ a un comportement très intéressant lors de ce mariage. Et c'est ce par quoi je vais commencer. Alléluia. Amen. Donc, je vais d'abord poser les fondements. Je vais d'abord poser les fondements avant de rentrer dans, avant de mettre les gaz. Le premier fondement que je pose, c'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Dis avec moi, j'ai été créé à l'image de Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image. Le mot homme ici vient de l'hébreu kal, qui veut dire les êtres humains, l'humanité ou encore les hommes. Donc là, Dieu est en train de parler de nous tous de manière générale. Il ne parle pas d'une personne. Parce que toi, tu lis ta Bible en français. Et en français, elle te dit « faisons l'homme ». Et quand tu regardes bien le mot, c'est un mot au singulier. Donc toi, tu penses qu'il parle d'un homme, d'un individu. Dieu n'est pas en train de parler d'un individu. Il est en train de parler de toute l'humanité. Faisons les hommes, les êtres humains. C'est pour cela que quand tu lis la Bible dans différentes versions, il y a d'autres versions où il y a écrit les êtres humains. La version Bible Semeur, il y a écrit les hommes. La version français courant, il y a écrit les êtres humains. Mais comme la plupart des chrétiens ont le plus souvent la Bible version Louis II, eh bien, il y a écrit « faisons l'homme ». Et on a tendance à se tromper en croyant que Dieu est en train de créer un homme. Dieu ne crée pas un homme, Dieu crée les hommes. Alléluia. Et ce mot vient de l'hébreu « kal ». Ensuite, quand on s'intéresse encore de plus près, « image », il dit « faisons l'homme à notre image ». Le mot « image » ici vient de l'hébreu « tselem », qui veut simplement dire la ressemblance parfaite ou encore caractéristique. Faisons l'homme avec les mêmes caractéristiques que nous, que moi. Donc, l'homme que tu es, c'est-à-dire la femme et l'homme que vous êtes, que nous sommes, nous avons été créés avec les mêmes caractéristiques que Dieu. Ça veut dire qu'on est pareil que Dieu. C'est pour cela que quand tu lis ta Bible dans le livre de Psaumes au chapitre 82 au verset 5 ou 6, il y a écrit « N'ai-je pas dit que vous êtes des dieux ?» Donc, l'homme et la femme sont des dieux quand ils sont en Christ. Amen. Donc, l'esprit que nous sommes est exactement pareil que Dieu. Les mêmes caractéristiques veut dire quoi? C'est-à-dire tout ce que Dieu est, je le suis. Si Dieu est amour, je suis amour. Si Dieu est paix, je suis un esprit de paix. Si Dieu est roi, je suis roi. C'est pour cela que Jésus-Christ est appelé le roi des rois. Si Dieu est créateur, je suis aussi créateur. J'ai aussi le pouvoir de créer à partir de rien, comme Dieu peut créer à partir de rien. C'est ce qui s'appelle la foi. C'est pour cela que Jésus-Christ dit « Tout est possible à celui qui croit par la foi. Rien ne peut vous être impossible par la foi. » Alléluia. Ensuite, il dit « Qu'il domine. » Le mot « dominer », c'est le mot hébreu « rada » qui veut simplement dire qu'il gouverne, qu'il contrôle, qu'il administre, qu'il gère, qu'il manage, qu'il domine. En d'autres mots, tu as été créé pour dominer. Dis avec moi, j'ai été créé pour dominer. Nous avons été créés pour dominer, pas autre chose. Quand quelqu'un réfléchit en se demandant pourquoi j'ai été créé sur cette terre, tu as été créé pour dominer quelque part. Tous les hommes comme les femmes, ont été créés pour dominer. C'est pour cela qu'en chacun d'entre nous, il y a ce refus naturel d'être dominé par quelqu'un d'autre. Parce que je n'ai pas été créé pour être dominé, j'ai été créé pour dominer. Amen. L'homme domine très naturellement dans le monde de la performance et de la compétition. La femme, sa domination s'exerce beaucoup plus au travers de l'influence qu'elle exerce sur son prochain. Ça, c'est un autre enseignement encore. Mais tous les deux ont été appelés à dominer. Alléluia. Et il dit enfin, Dieu créa l'homme et la femme. Là, ce n'est pas le même mot. Le mot homme, c'est le mot zakar. Et la femme, et le mot femme, c'est nekeba, qui veut dire simplement mâle et femelle. Les deux sont esprits, mais les deux n'ont pas la même fonction. Il y en a un qui est mâle, l'autre aussi est mâle. Pourquoi on dit feu avant? Parce que ce mâle-là est celui qui porte le fœtus. C'est pour ça qu'on dit femelle, femelle. Alléluia. Mais les deux sont des mâles créés à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Leur différence se voit au moment où ils sont manifestés. L'homme a été le premier à être manifesté. La femme est venue ensuite. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais enseigner. Parce que comme je t'ai dit hier, la prédication proclame, l'enseignement explique. C'est l'enseignement qui fait asseoir la vérité en nous et qui nous ouvre les yeux. Amen. Si tu es avec moi, fais comme ça. Le mariage est une alliance divine qui a été créée par Dieu pour manifester, pour l'aider à manifester la domination à laquelle il est appelé. Le mariage est une alliance. Le mariage n'est pas un contrat. Le mariage est une alliance entre deux personnes. Chaque être humain, homme et femme, est appelé à libérer son potentiel dans un domaine bien particulier au travers de ses dons et de ses talents. Pour une seule chose, pour manifester la gloire de Dieu. Et quand Dieu amène une personne dans ta vie pour que vous vous mariez, c'est simplement pour accélérer cette manifestation. Amen. Tu es appelé à manifester la gloire de Dieu dans ta vie et au travers de ton mariage, la gloire de Dieu doit se manifester bien plus rapidement, si je peux dire ça ainsi. Si ton mariage ne manifeste pas la gloire de Dieu, il y a un problème. C'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Il faut revenir en Éden et voir ce qui ne va pas. Pourquoi les gens ont des problèmes dans les couples et quand ils viennent s'asseoir devant Dieu, ils refusent d'écouter celui qui a créé le mariage? Si cet ordinateur ne fonctionne pas bien, la marque c'est Asus, tu retournes chez le concessionnaire Asus et tu lui dis « réparer mon ordinateur ». Imagine quelqu'un qui vient chez le concessionnaire et quand le concessionnaire donne les recommandations pour réparer, il est toujours en train de discuter. « Non, mais non, mais non, mais non, mais non, non, j'en ai marre, etc. Non, mais non, je ne suis pas satisfait, etc. » Non, tu écoutes le concessionnaire, tu écoutes le fabricant et ton appareil va refonctionner. De même, quand ça ne va pas entre vous, dans votre couple, pour revenir s'asseoir au pied de la parole de Dieu et regarder ce qui ne va pas. Alléluia. Quand tu es malade, tu vas voir un médecin. Il te donne une ordonnance et tu vas acheter les médicaments. Si tu n'achètes pas les médicaments, alors c'est que tu es fou. De même, quand ça ne va pas dans le couple, on retourne devant celui qui a créé le mariage et on écoute ce qu'il dit. Alléluia. Donc, à l'image de notre Créateur, l'homme a été créé pour la domination et son mariage est l'un des moyens donnés par Dieu qui doit le conduire vers le seul but pour lequel il a été créé, la domination. Le mariage, c'est une plateforme divine que Dieu nous a donnée pour exprimer notre domination et manifester sa gloire au travers de notre couple. Je me répète un peu, mais bon. Alléluia. Je tiens à ce que ce soit bien gravé dans ta tête. Que tu es appelé à dominer et à manifester la gloire de Dieu. Alléluia. C'est très, très, très important. Donc, il y a une chose à savoir. C'est que il y a quelqu'un qui déteste par-dessus tout le mariage. Cette personne s'appelle le diable. Tu vas comprendre pourquoi le diable déteste autant le mariage. Le diable, dans le couple, s'il y a bien quelqu'un qu'il hait le plus, c'est la femme. Désolé, mesdames, mais le diable vous hait. De tout son cœur et de toute son âme et de toute sa force et de toute sa pensée, il vous hait. Satan hait la femme plus que tout parce qu'il sait qu'elle est destinée à aider l'homme à atteindre le but de la domination et entrer dans sa destinée. Elle a été manifestée pour ça. Satan voit l'homme qui a été créé. Dieu déclare de manière prophétique que cet homme va dominer sur la terre. Et Dieu démontre de manière claire que cette femme-là, quand elle apparaît, elle vient que pour une seule chose, amener cet homme à la domination. Une femme qui désire se marier doit comprendre qu'elle est en train de s'associer avec cet homme-là pour une seule chose, pour le propulser vers la domination. Il faut que cet homme-là brille grâce à elle. C'est la seule raison pour laquelle la femme est arrivée sur la scène de l'histoire. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, parmi les deux, la femme est l'aide auprès de son époux qui a reçu le mandat d'écraser la tête. Parce que, entendez, ce n'est pas l'homme à qui on a donné le mandat d'écraser la tête. C'est à la femme. Cette histoire d'écraser la tête du serpent, là, ce n'est pas à l'homme, c'est à la femme. C'est elle qui écrase. L'homme aussi a ce pouvoir. Mais la femme, elle est née pour ça. Pour détruire Satan. Vous n'avez pas remarqué que tout ce qu'il y a de plus impur, abominable, tout ce qui a trait à la sexualité dans le monde, c'est toujours la femme qui est mise en avant. Parce que Satan est tellement la femme qu'il en a fait son objet pour ternir le plus possible son image. Parce qu'il la hait. Pourquoi est-ce qu'il la hait? Parce que c'est elle qui est destinée à le détruire. Donc dans le couple, Satan va, la première personne que Satan va attaquer, c'est toujours la femme. C'est rare que Satan aille directement chez un homme qui est en bonne santé dans son foyer. En Christ, hein, je parle. Mais la femme, elle a ce mandat-là d'écraser la tête du serpent. Donc, quand la femme se lève dans la prière, le royaume des ténèbres tremble. L'homme symbolise Christ dans le foyer, c'est lui le prophète. Et la femme symbolise l'église qui fait des dégâts et qui fait capituler le diable. C'est pour ça qu'il la hait autant. Alléluia. Femme, quand tu vois le feu à la maison, identifie tout de suite Satan qui veut te détruire. Ni plus ni moins. Ça sert à rien de pleurnicher et de te demander qu'est-ce qui se passe. C'est l'ennemi. Donc rien ne peut arrêter deux époux qui se mettent en prière pour détruire les plans du diable. C'est pour cela que Matthieu 18, verset 19 nous dit que lorsque deux personnes s'accordent pour demander une chose quelconque à Dieu, cela leur est accordé. C'est un verset qui nous parle de mariage aussi ici. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Donc, Satan, il a un seul et unique objectif, c'est créer des conflits. Satan sait que le mariage a été institué par Dieu lui-même pour manifester la gloire de Dieu, pour permettre aux hommes d'exercer leur domination, mais aussi pour l'humilier. Satan déteste les mariages. Une église comme celle-là, si les mariages sont en très bonne santé, c'est une église qui va faire des prouesses, qui va faire des exploits. Un jour, j'étais avec mon épouse, nous étions allés visiter une église, on était à un culte un dimanche matin. Il y avait à peu près 300 ou 400 personnes, je ne sais plus, dans la salle. En tout cas, il y avait quand même pas mal de monde. Et le pasteur était en train de prêcher. Et là, le pasteur pose une question. Quels sont les couples mariés ici? Levez-vous. Donc, quand il dit les couples mariés, levez-vous. Toi, tu t'attends à voir quasiment plus de la moitié de l'église se lever. Bien-aimé en Christ, Dieu est là. 5 personnes se sont levées. J'étais tellement choqué que j'ai regardé mon époux, j'ai dit, est-ce que tu te rends compte de ce qui est en train de se passer ici? Je me suis retourné, j'ai vu le monde qu'il y avait derrière nous, j'ai vu le monde qu'il y avait devant nous, et je vois juste 5 personnes dans cette grande salle qui se sont levées. Et puis il a continué à prêcher. J'ai dit à ma femme, là, il faut que le pasteur entre en jeûne et prière. Parce que là, Dieu est en train de te montrer que non seulement il y a beaucoup trop de célibataires, deux, certainement il y a un niveau de fornication très élevé dans cette église. Parce que je ne sais pas si sur les 400, il y en a que 5 qui se sont levés. Je ne sais pas si tout ce monde-là se sanctifie. Bon, je ne sais pas. Donc ça veut dire que là, le pasteur devait arrêter sa série et le dimanche d'après, il devait enseigner sur le mariage pendant un an. Alléluia. Et c'est comme ça dans beaucoup d'églises. Les gens ne sont pas mariés ou vivent en concubinage. Pourquoi? Parce que le mariage a été bafoué dans notre pays. Le mariage a été sali. Le mariage a été détruit. Et il est temps que l'église ramène sur la scène les vraies valeurs concernant le mariage. C'est pas la blague, bien-aimé, c'est pas la blague. Dieu joue pas avec le mariage. Car si les mariages sont affectés, c'est toute la destinée de l'église qui est affectée. Donc c'est trop important. Alléluia. Le mariage, c'est le lieu où Dieu manifeste sa gloire. La Bible nous dit, suite au texte que nous avons lu, dans Jean chapitre 2, aux noces de Cana. Tu n'as peut-être pas saisi quand on lisait le texte tout à l'heure, mais la Bible nous dit bien que le miracle du vin qui s'est fait aux noces de Cana, c'était le premier miracle de Jésus. Donc il faut t'arrêter. Pourquoi? Et te poser une question. Pourquoi Jésus-Christ a réalisé son premier miracle au cours d'un mariage? Pourquoi? La première chose que Satan détruit en Éden fut la famille, une famille. De même, Jésus fit son premier miracle à Cana lors d'un mariage pour essuyer la honte d'une famille et manifester sa gloire. Et pour montrer à Satan que la famille que tu as détruite là, je vais la restaurer. Jésus-Christ a tenu à ce que son premier mariage, à ce que son ministère soit inauguré lors d'un mariage. À ce que son premier miracle, plutôt, soit inauguré lors d'un mariage. Amen. Il ne l'a pas fait au hasard. Parce qu'en fait, l'histoire de la Bible, toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'une famille. Quel est le cœur même de la vie? Quel est le cœur même de notre société? Ce sont les familles. C'est la famille. C'est de la famille que tout part. C'est de la famille que part l'amour. C'est de la famille que part l'éducation. C'est de la famille que part que nous propulsons la destinée de nos enfants. Tout part de la famille. Cette église, chacun d'entre nous ici, on représente des familles. La Bible est l'histoire d'une famille qui a été détruite. Et toute la Bible, dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu qui se présente comme un époux qui sans cesse corrige son épouse, qu'il appelle Israël, qu'il rappelle, il dit tu as péché, reviens à moi, etc. C'est sans cesse un époux qui est en train de se plaindre de son épouse ou bien en train de lui faire des déclarations d'amour. Jésus-Christ nous est présenté comme un époux qui vient chercher son épouse. L'église est présentée comme une famille. Car elle dit que celui qui est à côté de toi, tu l'appelles frère, sœur, etc. Donc nous sommes une famille. Et l'épisode de Éden, c'est l'épisode de la destruction d'une famille. Et Dieu est là pour restaurer sa famille. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Donc, le premier miracle du vin se fit dans des vases destinés à la purification, nous dit la Bible. De même, Dieu manifesta sa gloire dans le mariage, manifestera sa gloire dans le mariage quand les époux vont se consacrer et se purifier. Sans purification, pas de gloire. Les époux doivent se sanctifier. Ils doivent être fidèles l'un envers l'autre, mais ils ne doivent jamais oublier une chose, la sainteté. La sainteté est le socle, le fondement, la fondation du bonheur et de la stabilité d'un foyer. Dès que l'un des conjoints ne se sanctifie plus, le diable entre. Il y a problème. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ a devant lui plusieurs vases. Mais pour réaliser son miracle, il ne choisit pas n'importe lesquels. Il choisit des vases destinés à la purification. Amen. Je suis en train de poser les bases là. Donc, quand Dieu prend le contrôle dans un couple, quelles que soient les crises, les difficultés, quand c'est Dieu qui prend le contrôle, le vin des noces reste agréable jusqu'à la fin du mariage. Vous pouvez connaître tous les problèmes que vous avez, que vous voulez dans votre couple. Si Dieu est au contrôle, l'avion ne peut pas s'écraser. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que quand un couple aboutit à une séparation ou à un divorce, ça veut dire qu'à un moment donné, on a éjecté Dieu de l'avion volontairement. Parce que quand vous êtes des vrais chrétiens qui priez, même s'il y a problème, vous allez tenir. Vous allez tenir. Et en général, quand un couple est vraiment investi dans la prière, qu'ils prient ensemble, c'est pour cela que quand on est en couple, il faut beaucoup prier avec son conjoint. Parce que quand tu pries beaucoup avec ton conjoint, en général, c'est rare de voir des couples qui prient ensemble avec de gros problèmes. C'est difficile en fait. Parce que quand vous avez l'habitude de prier ensemble, il y a toujours le Saint-Esprit au milieu qui vous rappelle à l'ordre. Toujours. Il n'y a jamais de gros écarts. Mais quand il y a l'un des deux qui fait un gros écart, qui fait un grand écart, qui sort de la maison et qui va faire une bêtise, ça veut dire qu'entre les deux là, il n'y avait pas union dans l'esprit. Il n'y avait pas union dans l'esprit. Alléluia. Je tenais à poser ces fondements-là. C'est extrêmement important. On parle du mystère du mariage, non? Le mystère est en train d'être dévoilé depuis hier. Certaines choses, c'est des choses que vous avez déjà entendues. Mais pour beaucoup, vous ne les appliquez pas. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, celui qui écoute ma parole et qui ne la met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur du sable? Quand la tempête a soufflé, la maison s'est écroulée. Mais celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur du roc. Un homme sage, il précise. Le mariage, c'est la sagesse. Dis avec moi la sagesse. C'est pour cela que un jour, quelqu'un dit, mais ce jeune homme, il vient nous enseigner sur le mariage. Il est qui pour nous enseigner sur le mariage? Nous, les grands. Mon ami, quand tu as 11 ans de mariage et que je suis toujours debout, on est toujours debout, c'est qu'on a acquis une certaine sagesse que vous n'avez pas. Car quand tu vois une personne qui te dit que j'ai été marié pendant tant de temps et qu'au final je me suis séparé, comme beaucoup de familles dans notre pays, c'est que on a à la tête des familles des gens qui n'ont pas été sages et qui n'ont pas su tenir leur famille unie. C'est pour cela que Paul dit à Timothée, quand tu veux choisir un ancien dans l'église, assure-toi que c'est un homme irréprochable en ce qui concerne la famille. Un homme qui est marié à une femme, un homme qui sait prendre soin de ses enfants, etc. etc. C'est pas ce qui est écrit dans Timothée? Et il dit, si un homme n'est pas capable de prendre soin de sa famille, il ne peut pas prendre soin de l'église. Mais combien de fois nous avons des gens qui veulent des responsabilités dans la société, mais ils ne sont même pas capables de prendre soin de leur propre maison. C'est pour cela que ce qui est en train de se passer en France avec les élections présidentielles, c'est du n'importe quoi. Vous avez mis à la tête de la France il y a 5 ans un homme célibataire qui n'a pas su prendre soin de sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait pendant son mandat? Sur sa moto. Il partait voir la copine. C'est à cet homme-là que vous donnez les rênes de la destinée de votre pays. C'est chaud. Et là, ils sont en train de s'apprêter à mettre à la tête de leur pays des personnes qui ne sont pas mariées. Rien que pour cette raison, je choisirais de mettre... je préfère pas dire les noms, mais sinon on va dire que le pasteur influence la politique. Hein? Quelqu'un qui n'est pas capable de prendre soin de sa famille, il n'est pas capable d'avoir de hautes responsabilités. Donc on mesure la sagesse d'une personne en voyant comment il prend soin de sa famille, comment il éduque ses enfants, quelles sont les valeurs qu'il transmet à ses enfants, etc., etc. La famille, c'est tout. La famille, c'est tout. Il ne faut jamais oublier ça. Alléluia. Allez, on met les gaz. Je vais te montrer au travers de la parole et je vais atterrir. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être trop long. Je veux simplement répondre à certaines questions. Le processus divin pour trouver le bon conjoint et bâtir un mariage et un foyer heureux. Comment alors je trouve la bonne personne? Ok, je me fie à mon cœur, je l'aime, je rencontre des gens, etc. Ok, on ne pouvait pas faire 4 jours d'enseignement sans avoir pris le temps de répondre à cette question. Car beaucoup ne sont pas mariés parmi nous. Beaucoup veulent rencontrer la bonne personne, beaucoup veulent savoir comment faire le bon choix. Beaucoup veulent avoir des explications, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait. Il y a déjà eu des enseignements sur le sujet. Mais souvent, pour beaucoup d'enseignements, parce que je vous assure qu'avant de venir vous parler, j'ai pris le temps de faire des recherches, j'ai pris le temps d'écouter beaucoup d'enseignements. J'ai pris le temps de lire des livres. Mais au final, tu reviens toujours à la parole de Dieu. Parce que tu te rends compte que beaucoup de choses que l'on dit dans des bouquins, même si c'est intéressant, même si c'est bien écrit, le mieux, c'est la Bible. Le mieux, c'est la Bible. La Bible est claire. Et si tu prends le temps de t'asseoir et de te laisser enseigner par le Saint-Esprit, il va te donner des principes très simples. Si tu obéis à ces principes, tout ira très bien. Dis avec moi, le processus divin pour trouver le bon conjoint. Et pour ça, je vais nous emmener à lire un petit texte. Tu vas revenir avec moi dans le livre de Genèse, au chapitre 2. Regarde ce qui est écrit. C'est très intéressant. Dieu, il est merveilleux. Et quand Dieu t'explique le mariage, c'est tellement épris de sagesse et de simplicité. Tu es juste émerveillé. Genèse, chapitre 2, verset 15 à 25. Si tu y es, dis avec moi, amen. Il est écrit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Si on veut répondre à la question, comment faire pour savoir, comment faire pour ne pas me tromper, comment faire pour faire le bon choix, prends ce texte. Et tu trouveras le bon choix. Pour répondre à cette question, au travers de ce texte, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur différentes étapes. pour rencontrer quelqu'un. Assure-toi, ne te dis pas que c'est pour seulement ceux qui sont seuls. Même toi, qui es déjà marié, tu mémorises ces étapes et tu regardes les problèmes que tu as dans ton couple. Et en identifiant les problèmes et en regardant les étapes, tu sauras où est-ce qu'il faut revenir corriger. Pour te rendre compte qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été faites correctement. Et là où je dois travailler. Alléluia. Amen. Le processus divin, il y a une étape, la première, qui est très très importante à identifier. C'est de revenir au standard du jardin d'Éden. Dis avec moi, revenir en Éden. Pourquoi est-ce que je dis revenir en Éden? Parce que beaucoup d'entre nous, quand on parle du mariage, on a tendance à croire que le mariage dans l'église doit être célébré de la même manière qu'il est célébré dans le monde. C'est faux. Au regard de la parole de Dieu, il est écrit au verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. » Dis avec moi, il le plaça. Dans le jardin d'Éden. Le jour où tu entres dans la saison du mariage, il faut t'assurer que Dieu t'a placé en Éden. Éden veut simplement dire la présence de Dieu. Aucun mariage ne doit être et ne peut être célébré en Christ s'il ne se fait pas en Éden. Éden veut dire simplement un environnement dans lequel Dieu se meut. Ok? Donc, tu regardes la relation que tu as en ce moment, que tu es en train d'entretenir en ce moment, et tu regardes comment est-ce qu'elle se déroule. Si tu vois certaines choses qui sont incorrectes, c'est que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Si vous êtes dans la présence de Dieu, même s'il y a des écarts, en général, le Saint-Esprit vous ramène très rapidement à l'ordre. Il est important que les choses se fassent dans la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. Dieu doit être le pilote de votre couple. Il n'y a rien qui doit se faire si Dieu n'est pas impliqué dans votre couple. Les petits écarts, les petites choses bizarres qui peuvent arriver, les petits regards incertains, les petites choses impures qui peuvent arriver, etc. S'il y a quelque chose comme ça qui se passe, c'est que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Satan n'a qu'un seul objectif, c'est que vous opérez en dehors de la présence de Dieu. Parce que quand vous êtes en dehors de la présence de Dieu, il peut vous frapper ou bien vous amener à l'erreur. Alléluia. Donc les standards du monde au sujet du mariage sont très différents des standards du royaume. Dans le monde, voici le cheminement. On couche ensemble, sexe. Ensuite, on s'aime. Après, on décide de vivre ensemble, si on veut. Et ensuite, on se marie. Dans le royaume de Dieu, on s'aime d'abord. On se marie ensuite. Ensuite, on décide d'aller vivre ensemble. Et après, on couche ensemble. Dis avec moi, pasteur, c'est la vérité. Non, parce qu'il y en a, je vois les regards. Vous savez, quand on a la grâce d'être ici, on voit les regards. Il y en a, ils me regardent des yeux menaçants. Qu'est-ce que tu racontes là? Donc, en d'autres mots, si par exemple, vous êtes chrétien et que ce cheminement n'a pas été respecté et que vous n'avez pas commencé par l'amour, le mariage et ensuite la vie conjugale. Vous avez commencé par le sexe ou bien l'amour, mais vous êtes allé directement à la vie conjugale. C'est-à-dire que vous avez sauté les premières étapes et puis vous êtes parti vivre ensemble. Vous avez sauté l'étape du mariage et vous êtes allé vivre ensemble. Et vous vous retrouvez, vous voilà maintenant assis dans l'église, en couple, non marié, avec des enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rembobiner la bobine et revenir et valider l'étape du mariage. Oh, mais pasteur, l'histoire de la régularisation des papiers là, régularise tes papiers. Parce qu'il y en a, vous êtes des sans-papiers en ce qui concerne le mariage. Donc, si je crains Dieu, si j'aime le Seigneur, nous aimons le Seigneur, mais nous avons rencontré le Seigneur après avoir fait toutes ces choses. Et nous avons décidé de nous consacrer au Seigneur. alors il faut que l'étape du mariage soit une priorité pour nous cette année. Dis amen aussi. Donc, la question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est, vous attendez quoi? Église de Christ, est-ce qu'on peut dire tous ensemble, hé, les non-mariés, là, vous attendez quoi pour vous marier? Dites ça. Non, dites-le encore plus fort pour qu'ils entendent bien. Vous attendez quoi? Vraiment? Il faut vous marier. Parce qu'il y a une grâce et une faveur qui ne peut pas être activée tant que vous n'êtes pas dans l'environnement du mariage. Vous êtes là, vous tournez en rond, vous vous cherchez, tout ça, vous vous posez des questions. Non, mon frère, même s'il faut aller vous marier dans un maquis de Aveyron, on va vous marier. Il faut juste se marier. Non, pasteur, tu sais, moi, le mariage, il faut que je dépense au moins 30 millions, que toutes les brebis soient au courant, et puis quoi encore? Allez vous marier, c'est tout. C'est juste une formalité, alors pourquoi vous prenez autant de temps? Pasteur, c'est compliqué, tout ça. Il n'y a rien de compliqué. Le mariage devant le maire, ça dure 30 minutes. Devant le pasteur, ça dure même pas une heure. Et puis c'est fini, vous attendez quoi? Donc, votre mariage, là, l'organisation, là, c'est pour impressionner les gens. Vous faites les mariages pour impressionner les gens. Il faut la limousine, il faut la salle de Radisson Blue, il faut le costume à 1 million. C'est ça votre mariage. Donc le mariage se limite à ces choses-là. Mais j'avance. Bien-aimé, ma femme et moi, quand on s'est mariés, là, je sens l'onction qui est en train de monter maintenant. Ma femme et moi, quand on s'est mariés, on s'est bagarré pour la liste des invités parce qu'elle, elle voulait très peu de monde. Elle ne voulait pas plus de 50 personnes au mariage. Moi, je voulais du monde. Je voulais même inviter toute l'église. J'étais devenu fou. Je voulais montrer que Luc Condia se marie aujourd'hui. Bien aimé, on a invité combien? 200 personnes, c'est ça? 200 personnes, dont plus de 100 qui étaient de l'église. Si je vous dis qu'il n'y avait même pas 100 personnes qui se sont pointées, 1. 2. Les 3/4 des gens de l'église ne sont pas venus. Pourtant, on les avait invités avec faire part. Non seulement ils ne sont pas venus, même pas un texto pour s'excuser. Et le dimanche, 2 semaines après, quand on revient de nos noces, il vient juste te saluer, mon frère, que Dieu te bénisse. Hein. Tu le regardes, tu fais, mais toi, je t'ai invité à mon mariage. Ton assiette m'a coûté 100 €. Et même pas excuse. Même des pasteurs de l'église. Se sont même pas excusés. J'ai regardé ma femme, j'ai dit, si je me mariais, si je pouvais me remarier, je les virais tous de ma liste, ces gens-là. Oh là là! Mais je vous assure, hein, ça m'a fait grandir d'un bond. Maintenant, je fronçais mes sourcils quand j'arrivais à l'église. Bonjour, bonjour. Et quand je les regardais, j'avais envie de dire, rembourse-moi mes 100 €, toi. Non, mais c'est vrai. Quand quelqu'un t'amène à faire part, et tu sais que tu ne viendras pas. Pourquoi tu prends le faire-part? Dis-lui que je ne peux pas venir. Ça lui évitera de dépenser de l'argent. Donc, le mariage, ce n'est pas pour impressionner. En Éden, là, quand Dieu a marié Adam et Ève, ils étaient seuls. Il n'y avait pas d'invité. Peut-être les animaux. Donc, le reste, là, on s'en fiche. Vous attendez quoi? Moi, j'aime le témoignage d'un frère en Christ à Paris. Mais j'aime trop son témoignage, parce que quand ils nous ont raconté ça en couple, on était émerveillés avec mon épouse. Il était étudiant. Il l'aimait tellement, il s'aimait tellement, qu'ils ont dit, on veut absolument se marier. Ils sont allés voir les parents, ils ont dit, il a dit aux parents, je vais épouser votre fille. Les parents ont dit oui, mais il était encore étudiant, il n'avait pas d'argent. Il était sur le point de finir ses études et il voulait absolument l'épouser, parce qu'il ne pouvait plus résister, il s'aimait trop les deux. Mais il était fauché le gars, il n'avait pas d'argent pour pouvoir faire un grand mariage. Au moins, il avait un travail qui lui permettrait de l'entretenir, de prendre soin de sa femme. Mais quand son père, le père de la fille a demandé, mais tu vas célébrer le mariage où? T'as pas d'argent pour louer les grandes salles, tout ça. Il a dit, je vais inviter les gens au McDo, il n'y a pas de problème. Au début, on a cru qu'il rigolait. Mais quand il a envoyé le faire part aux gens, les gens ont vu rendez-vous au McDonald's de telle ruelle de Paris. Les gens sont venus au McDo. McDonald's. Oh, vous comprenez pas McDonald's. Vous connaissez McDonald's? Oh, quand même. Bon, c'est comme si on t'invitait à sauce tartare à l'ancienne Sobraga. Hein? Donc, voilà les gens en train de rigoler dans un McDonald's. Mais le gars, il est sérieux, il nous fait manger des hamburgers et des frites à son mariage. Et puis, quand on lui a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Le gars, il dit, mais parce que dès qu'on a fini là, vous, je ne vois plus, je suis seul avec ma femme, c'est tout ce qui m'intéresse. Et l'argent que j'ai dans mon compte bancaire, ce n'est pas pour vous. Parce qu'il y en a, vous voulez dépenser des millions et des millions, mais après, il faut nourrir la famille. Je vous assure, ça sert à rien de faire un grand mariage. Ça sert à rien. Moi, je suis un pasteur favorable au petit mariage, au petit comité avec les amis intimes. C'est tout. Les gens qui font les... Ma femme et moi, il y a 2 ans, on nous a invités à un mariage. Regarde le monde. Regarde les bagnoles. Regarde comment le mariage était clinquant. Ils n'ont même pas fait 1 an. Ils ont divorcé. J'ai dit à sa maman, j'ai dit, oh, mais le gros mariage, le grand mariage, là, ils sont déjà divorcés. Donc j'ai regardé, j'ai dit, c'est vraiment, ça sert vraiment à rien de dépenser autant d'argent. Vraiment. Donc, pour ceux qui sont en train de se préparer au mariage, là, faites simple, en toute humilité devant le Seigneur, dépensez le strict minimum, ça ne dure que 24 heures, et après tu rentres à la maison et tu remets ton short et ton t-shirt sale et puis tu regardes ta télévision. C'est tout. Les gros costumes à 1 million là, c'est juste pour un soir. Après, tu ne le reporteras même plus. Elle veut la grosse robe, tout ça là, qui coûte je ne sais pas combien. Elle va plus jamais remettre la robe là. Oh, je vais donner ça à ma fille. Dans combien d'années? Ça sert à rien. Vous savez, entre nous, on est entre Africains. Qui a amené ces choses là? C'est les Blancs. Nous, avant, on avait nos caches sexes et nos lances, et puis on se mariait. On ne connaissait pas ces choses-là. Bon, on ne va pas te marier en cache-sexe, d'accord? Donc, dans le royaume, quand on est de nouveau, quand nous sommes des époux, on est né de nouveau, on veut se marier, hein? Il faut laisser Dieu nous travailler. Il faut laisser Dieu refaire notre manière de penser, notre manière de voir les choses. La personne qui compte le plus dans notre mariage et qu'il faut vraiment impressionner, c'est le Seigneur. Le reste, on n'en a rien à faire. Tu prends ta liste d'invités, tu prends la liste qui est dans ton téléphone portable. En général, tu as des centaines de numéros. Tu vas voir que 90% des gens qui sont dedans, ils ne comptent pas pour toi. Invite ceux qui comptent le plus, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes amis très très proches, le pasteur et 2-3 frères de l'église que tu aimes, tout ça là. Le reste de l'église, là, tu les laisses venir au mariage. Tu vas même voir, le jour de ton mariage à l'église, l'église ne se pointera pas. Il y aura juste, peut-être même les 2 rangées seulement qui sont ici. Le reste, ils ne viendront même pas. Je vous dis, mais allez dans les églises quand les gens se marient, est-ce que l'église vient? L'église ne vient pas? Pourtant, les gens sont les premiers à dire, mon frère, ma soeur, le jour de ton mariage, c'est le jour de ton mariage que tu vois qui t'aime. Tu vois qui te célèbre. Le jour de ton mariage, quelqu'un qui t'appelle mon frère, qui est là, mais le jour de ton mariage, il ne vient pas. Oh, c'est quelqu'un qui n'a aucune considération pour toi parce que le mariage, c'est le jour le plus important de la vie d'une personne. Alléluia. Donc, il faut revenir au standard de Éden. Amen. Si tu es avec moi, fais comme ça. La seconde étape de ce processus, elle est très importante et c'est parmi toutes les étapes que je vais énumérer ce soir, c'est celle sur laquelle je vais prendre le plus de temps parce qu'elle est trop importante. C'est l'étape du seul à seul avec Dieu. Dis avec moi le seul à seul avec Dieu. Pourquoi le seul à seul avec Dieu? Il dit, il prit l'homme. D'accord? Il prit l'homme. Oui, il l'a placé en Éden. Mais il le prit pour un seul but. Pour qu'il puisse cultiver et garder le jardin. Il prit l'homme. J'ai appelé ça le seul à seul avec Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que avant toute relation avec une personne, l'homme et la femme doivent développer d'abord une relation personnelle et intime avec le Seigneur. C'est le fondement d'une relation durable. Beaucoup de gens, vous êtes en couple et vous Vous êtes en train de pourrir la vie de votre partenaire parce que vous n'avez aucune intimité avec le Saint-Esprit. La solitude est une maladie et ce n'est pas une raison valable pour se marier. Au contraire, il faut d'abord être guéri de sa solitude avant d'aller se mettre avec quelqu'un. On ne se marie pas parce qu'on se sent seul, mesdames et messieurs. Je me sens seul, j'ai besoin d'une go là. Non, on ne se marie pas pour ça, tu es fou. Celui qui veut se marier parce qu'il se sent seul, les pièces de sa maison sont trop vides et il veut faire venir. Non, tu n'as pas entendu le Saint-Esprit, tu as entendu Satan. On ne se marie pas parce qu'on est seul. La solitude, c'est une maladie. Quelqu'un qui est célibataire doit être heureux dans son célibat. Je vous assure que même ceux qui sont mariés parfois regrettent même leur célibat. Quand tout va bien, tu es content d'être avec elle. Le jour où vous disputez, oh, quand j'étais seul. Hein. Il y a beaucoup d'avantages à être seul. Beaucoup. Surtout quand tu vis dans ta propre maison. Il y a beaucoup d'avantages. Tu peux rentrer à l'heure que tu veux. Quand tu es marié, tu ne peux plus. Hé, hey, ceux qui sont mariés, tu ne peux plus rentrer à l'heure que tu veux. Dès qu'il est 21h, il faut rentrer à la maison. Dès que tu rentres, tu étais où? Tu étais avec qui? Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux. On est mariés. Donc, j'ai droit de contrôle sur ta vie. Tu étais avec qui? Et d'ailleurs, pourquoi tu ne peux pas me dire? Si tu peux me dire, c'est qu'il y a un problème. Tu étais avec qui? Tu es marié et quand ton conjoint te demande tu étais où, tu étais avec qui, et puis tu sens quelque chose qui te dérange, qui t'énerve, ça veut dire que tu as un problème. Parce que quelqu'un qui est en très bonne santé spirituellement, il n'a aucun problème à dire à son conjoint, j'étais à tel endroit avec telle personne. C'est ton conjoint, c'est ton époux, c'est ton épouse. Vous n'avez rien à vous cacher. Si tu as envie de lui cacher quelque chose, c'est qu'il y a un démon qui t'a possédé. Parce que normalement, tu n'as pas envie, tu as envie. Moi, ma femme, je lui dis tout. Hein. On n'a aucun secret, elle et moi. Aucun. Si tu dis, pasteur, venez, je vous dis ça. Surtout gardez ça pour vous. Ce n'est pas possible. Je lui dis tout. Je lui dis tout. Même une fois, un serviteur de Dieu m'a dit vraiment, 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 ce que je te dis là, ne dis ça à personne. J'ai dit alléluia, je lui dis à personne. Quand je me suis retrouvé dans le lit avec elle, j'ai dit. Parce que elle et moi, c'est une même chair. Non, je lui dis tout. Donc, on ne se marie pas parce qu'on est seul. Hein? Beaucoup de Gabonais et de Gabonaises, vous vous mariez parce que vous vous sentez seul. C'est pas bon. C'est des problèmes. Hein? Donc, Dieu veut que tu apprennes à être seul avant de rencontrer ton futur conjoint. Le célibat ne veut pas dire solitude, mais seul. À seul avec Dieu. Parce que en attendant d'avoir mon époux visible, j'ai d'abord un époux dans l'esprit, Jésus-Christ. Et c'est avec lui que je passe du temps. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas, vous n'avez aucune intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu es marié et que tu rentres à la maison le soir, vous discutez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Quand tu es seul, tu parles aussi à la maison avec le Saint-Esprit. Tu es avec lui, tu lui poses des questions. Tu ne te sens pas seul, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Tu n'as aucun problème à être seul. Tu n'es pas pressé de te marier. Mais les femmes ou les hommes qui ont des démangeaisons, je veux me marier, ça ne va pas, pasteur, vraiment, pourquoi je ne me marie pas? Il y a un problème. Oh, j'ai 25 ans, oh, j'ai 28 ans, oh, j'ai 32 ans maintenant, oh, j'ai 35 ans, oh, je veux me marier, le temps passe, oh, tout ça. Tu es avec Jésus. Il n'y a aucun problème. Un chrétien, une chrétienne n'a aucun problème à être seul. Seigneur, si tu veux me marier à quelqu'un, il n'y a pas de problème. La saison viendra et tu me maries. Si tu ne veux pas, oh, Paul était seul, non? Est-ce qu'il avait un problème? Tu as vu une fois Paul écrire dans une lettre, vraiment, Seigneur, je veux me marier, tout ça. Non, il n'avait aucun problème avec ça. Et Paul, ça devait être un beau gosse. Hein? Donc, il a dû rencontrer des femmes. Alléluia. Donc, quelqu'un qui n'a pas appris à s'épanouir en étant seul se retrouvera en couple à toujours chercher à combler ce vide avec son conjoint. Parce que quand quelqu'un est malade de la solitude, il pourrit la vie de son conjoint. Toujours. Parce que cette solitude-là, cette maladie-là, au bout d'un moment, l'autre, il le ressent. Il le ressent. Il ressent qu'il y a un vide qui n'a pas été comblé dans la vie de cette personne. Un vide que moi, je ne peux pas combler, que seul Dieu peut combler. Alléluia. Donc, dans le mariage, tu dois garder ta capacité à rester seul. Si demain tu te maries, même si tu es avec quelqu'un en couple, il y a toujours ce seul à seul avec le Saint-Esprit là qui demeure. Le mariage, c'est l'union de deux personnes, d'accord, qui sont unies devant le Seigneur, mais qui ont toujours leur relation personnelle avec Dieu. Toujours. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. La Bible nous montre que Adam ne cherchait pas un compagnon. Adam ne cherchait pas un ami. Adam cherchait un partenaire pour le travail. Adam cherchait une aide. Donc, quand la saison du mariage sonne dans ta vie, tu sens dans ton esprit que Dieu emmène cette personne pour t'aider à accomplir certaines choses. Pas juste parce que tu aimes cette personne et qu'elle t'aime, etc. Car le mariage ne se limite pas juste à l'amour. Il y a bien plus que l'amour. Rappelle-toi, Jésus-Christ nous a dit que quand nous irons tous au ciel, il n'y a plus personne qui est marié là-bas. Tout le monde est marié à un seul époux, Christ. Donc le mariage, comme on l'a vu hier dans Éphésiens 5, n'est que le symbole de la relation entre Christ et de son Église. Mais quand nous irons tous au ciel, nous n'aurons plus besoin de vivre avec des symboles, puisqu'on sera dans la présence même de Dieu. Amen. Donc même cette femme, même cet homme-là avec qui tu es marié, arrivé au ciel, vous ne serez plus mariés. Donc les histoires que nous nous marierons pour le meilleur et pour le pur et pour l'éternité, c'est faux, on l'est pour l'éternité là. Pour l'éternité, dans l'éternité, il n'y a pas de mariage. On est marié à un seul époux, Christ. Donc la vie de célibataire est cette saison où tu apprends à connaître Dieu et à te connaître toi-même. Voilà un point très important. Quand on est seul, il faut apprendre à bien se connaître soi-même. Il faut connaître ses qualités, ses défauts. Il faut savoir qui est notre Dieu. La relation que nous avons avec lui. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Quelle est l'appel qu'il a déposé sur ma vie? Etc, etc. Et après, le mariage vient. Alléluia. Il y a un autre point très important quand on est seul. C'est la vie de prière. Il est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas appris à développer une vie de prière avec le Saint-Esprit de le faire quand il est marié. Moi, j'ai appris à prier quand j'étais seul. Ce n'est pas arrivé dans mon mariage que j'ai appris à prier. Même ma femme, quand elle m'a rencontré, elle a trouvé un homme qui priait. Je me levais tôt la nuit. Je n'ai pas appris à me lever la nuit pour prier dans le mariage. J'ai appris ça quand j'étais seul. Parce que la nuit, je ne pouvais déranger personne. Là, aujourd'hui, je baisse d'un ton parce que je suis plus seul quand je prie la nuit. Mais j'ai appris à faire ces choses-là étant seul. Que les célibataires disent, c'est bien d'être célibataire. C'est bien, oh, je t'assure. Mais c'est encore mieux d'être marié. Alors que les mariés disent, c'est mieux d'être marié. Le mariage ne vient que pour renforcer le bonheur que le célibataire vit déjà avec Dieu. C'est tout. Le mariage permet au célibataire d'expérimenter pleinement le mystère de l'époux et de l'épouse, Christ et l'Église. C'est tout. Donc, le mariage n'est qu'une expérience qui va durer un temps. Et le jour où tu partiras, tu redeviens célibataire. Enfin, puisque tu es marié avec l'époux, tu n'es pas vraiment célibataire puisque nous sommes mariés à Christ. Mais ce mariage-là s'arrête dans l'éternité. Seuls les gens qui étaient entiers individuellement en Christ peuvent s'épanouir dans le mariage. Quelqu'un qui n'est pas entier, qui n'est pas complet, ne peut pas se marier ou ne devrait pas se marier. Il faut apprendre à développer cette relation avec Dieu dans laquelle il apprend à nous connaître. Il apprend il fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Par contre, quelqu'un qui est seul et qui est bourré de défauts est un danger pour son conjoint. Toutefois, au vu de ce que j'ai dit hier, il est important de comprendre que même si la femme peut avoir certains défauts que l'homme est appelé à corriger, il est important quand même qu'elle ait développé cette vie de seul à seul, cette intimité avec le Saint-Esprit. Car l'homme pourra corriger beaucoup de défauts de caractère, etc., mais il ne pourra pas corriger le manque de cette relation-là, de cette relation. Il ne peut pas. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas faire à la place de quelqu'un, c'est de prier et d'avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. On ne peut pas faire ça à la place de quelqu'un. Alléluia. Donc un célibataire épanoui et entier, c'est celui qui a appris à s'aimer lui-même. Le célibataire, c'est celui qui le matin se lève, se regarde dans le miroir et il s'aime. Il s'aime tellement qu'il donne tout son amour à lui-même et à Dieu, bien entendu. Il rend grâce à Dieu pour la vie qu'il a. Il rend grâce à Dieu pour la personne qu'il est. Il rend grâce à Dieu pour le bien que Dieu, pour les belles choses qu'il vit dans la vie. Il rend grâce à Dieu. Et quand il rencontre quelqu'un, c'est à ce moment qu'il ressent le profond désir de prendre cet amour et de le déverser sur cette personne-là. Mais il n'a aucun problème à s'aimer lui-même. Et en fait, c'est ça le problème de la solitude. Le problème de la solitude, c'est quelqu'un qui a une mauvaise estime de lui-même. C'est quelqu'un qui éprouve un complexe d'infériorité. Et beaucoup de gens entrent dans le mariage avec un problème d'estime d'eux-mêmes. La base même du développement personnel dans la vie d'une personne, c'est l'estime de soi. La base du succès dans la vie, c'est l'estime de soi-même. Avoir une bonne estime de sa personne. Être rempli d'assurance. Mais quand quelqu'un a un manque d'estime de soi, eh bien, il est capable de détruire tout son foyer. Pourquoi? Parce que celui qui a une mauvaise estime de lui-même très souvent vit dans les comparaisons ou les reproches, ou bien reproche souvent à l'autre de ne pas suffisamment le valoriser, de ne pas suffisamment l'aimer. Tu ne m'aimes pas, mais si je t'aime, non, tu ne m'aimes pas assez. Toujours toi. Si tu es avec quelqu'un qui a une mauvaise estime de lui-même, surtout n'épouse pas cette personne. Car cette personne va détruire votre couple. Quelqu'un, un des indices forts qui te permet de voir si quelqu'un a une mauvaise estime de lui-même, c'est quelqu'un qui se compare tout le temps aux autres. Vous êtes en couple et puis dès que ton conjoint dit waouh, tu as vu à la soirée le frère là qu'on connaît là, ah il avait un beau costume aujourd'hui hein.
Quoi, pourquoi il avait un beau costume? Quoi, mon costume n'était pas beau?
Mais non chérie, c'est ton ami, je dis qu'il avait un très beau costume aujourd'hui. Ok, il commence à avoir des jalousies tout ça là parce que la femme a dit qu'il avait un beau costume. Quoi, tu l'ornes sur lui? Tu as une attirance pour lui? Mais non! Oh, t'es jaloux! Oh, t'es jaloux! Juste parce que j'ai dit qu'il avait un beau costume, t'es jaloux. Non, je ne suis pas jaloux. Mais j'aime pas quand tu fais des compliments aux autres. Pourquoi? C'est pas à lui que j'ai fait le compliment. C'est à toi que je dis. Si j'étais allé devant lui en disant, tu as un très beau costume, tu sais. Et puis là, tu commences à faire des histoires. Bon, peut-être que je comprendrais. Mais c'est à toi que je le dis. Complexe d'infériorité. Ou bien les femmes, vous êtes ensemble, elle est toujours en train de se comparer. Ah chérie, j'ai une nouvelle secrétaire aujourd'hui. Ah bon? Elle est comment? Elle porte quoi comme chaussure? Elle fait quoi dans la vie? Etc. Elle est à quelle taille? Elle est grosse? Elle est mince? Elle fait quoi? Oh, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Toujours en train de se comparer aux autres. Ou bien, le moindre truc. Vous êtes à table en train de manger. Tu as fini de manger, tu fais... merci Seigneur. Merci Seigneur, mais moi tu ne me dis pas merci? C'était pas bon? Jamais tu dis merci. Jamais tu dis merci. Pourtant, je te fais plein de choses, mais jamais. Jamais. Elle m'a pleuré pour un rien. Complexe. Faut toujours qu'on lui dise des compliments. Tout le temps. Bon, quoique, sur ce point-là, c'est pas mauvais. Les femmes, il faut beaucoup leur dire des compliments. Parce que les compliments dans la vie d'une femme, c'est comme un compte bancaire. Si tu ne l'alimentes pas suffisamment, il va devenir débiteur. Et si quelqu'un vient combler le découvert, il risque de prendre ta place. Ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Le seul à seul avec Dieu, c'est le temps où on se prépare pour le mariage. L'époux se prépare. Amen. L'épouse aussi se prépare. Avant le mariage, concernant l'homme, la Bible nous dit que Dieu lui avait donné l'instruction de cultiver et de garder le jardin. Avant de se marier, l'homme n'a qu'une seule tâche, trouver sa voie, trouver son travail. Le travail ici symbolise le ministère. Dites-moi le ministère. C'est beau, c'est mieux quand un homme a trouvé son ministère, le ministère auquel Dieu l'appelle, avant le mariage. Parce que c'est beaucoup plus facile de prendre son épouse et d'aller avec elle. Mais un homme qui entre dans le mariage et qui se cherche encore dans la vie, c'est difficile. Parce que quand une femme dans le couple sait exactement ce qu'elle veut et où elle va, et qu'elle est mariée à un homme qui se cherche, je vous assure, il y a un malaise dans le foyer. Il y a un problème. Le mariage, le couple a du mal à décoller, à aller vite. Parce que l'homme est encore en train de se chercher. C'est lui la tête du foyer. C'est pour cela que les hommes qui ne sont pas encore mariés, particulièrement les jeunes, consacrez-vous à trouver votre appel dans la vie, votre ministère. Il n'y a rien de mieux pour un homme qui se marie et qui sait déjà à quoi Dieu l'appelle. Il n'y a rien de mieux. Donc l'homme, son temps de préparation, son temps de seul à seul avec Dieu, c'est pour trouver le travail auquel Dieu l'a appelé. Trouver sa voie. Mais la femme, elle est dans l'attente. Elle est dans l'attente. Et dans le moment d'attente, qu'est-ce qu'elle fait? La Bible nous dit dans le livre d'Esther, au chapitre 2, au verset 12, il est écrit ceci. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, dites-moi pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. En attendant le mariage, c'est tout ce que tu as à faire, madame. Tu prends soin de ta toilette, tu te fais belle pour que surtout quand tu passeras, il ne te manque pas. Beaucoup de femmes, vous voulez vous marier parce que là, en fait, ce verset nous parle de quoi? D'apparence. Elle s'apprêtait à aller voir le roi. Le roi, c'est qui? C'est ton époux. Celui que Dieu va mettre sur ton chemin, c'est ton homme, c'est ton époux. Et nous, les hommes, et je sais que là, tous les hommes vont me dire amen, on aime les belles femmes. Mais comment il n'y a qu'un homme qui dit amen? Oh, les autres, vous aimez les vilaines femmes. Moi, j'aime pas les vilaines femmes. Moi, j'aime les belles femmes. Moi, ma femme, je vais vous raconter comment on s'est rencontrés. Je sortais de la salle de culte. J'avais calculé. Elle voulait absolument que je la voie. Elle s'est mise juste à la porte. Elle était là. Je suis sorti. Quand je sors, oh. On tourne là-bas. Oh. Tu vois pas la petite qui était devant toi là? Certaines femmes, vous n'avez aucune toilette. Vous vous maquillez jamais. Vous vous laissez. Vous habillez mal. Certaines d'entre vous venez même à l'église dans ma bouche. Votre apparence n'est pas belle. Pourtant, votre toilette est très importante. L'huile de myrrhe, les aromates, les parfums, toutes ces choses-là, ce sont les senteurs, ce sont toutes ces choses-là, toutes ces petites choses qui rendent la femme coquette. L'homme, rassure-toi, quand il voit la femme pour la première fois, il l'aime pas, en général, au début. Il est plus attiré par son apparence, le physique. Elle est belle, elle est pimpante, elle est attirante, elle est sexy, elle est tout. C'est ça que l'homme regarde d'abord. Un homme
qui te voit la première fois et qui te dit Dieu m'a parlé, je t'aime, je vais t'épouser, c'est un menteur, c'est Satan en personne. Alléluia. Donc, dans l'étape du seul à seul, la femme, tu prends soin de toi. Mesdames, faites-vous belles. Beaucoup d'entre vous, vous ne vous faites pas belles. Certaines d'entre vous, vous avez même grandi dans les églises où on vous a vendu ce mensonge que se maquiller, c'est diabolique. Oh, c'est lui le diabolique qui vous dit ça. Car cette histoire de dire que les femmes n'ont pas le droit de se faire belles, c'est n'importe quoi. Ève, elle était magnifique. Elle était belle. Alléluia. Faites-vous belle. Achetez-vous des vêtements. Soyez claquante. Attention, quand je dis claquante, ça veut dire belle selon le Seigneur. Pas selon le monde. Car ton homme, il faut que même à 100 km, il puisse te voir arriver. Alléluia. C'est très important. Et c'est ce qu'il y a à faire pendant le temps du seul à seul. Et quand il te verra, il sera convaincu qu'il a envie de sortir avec toi. Mais un homme normalement constitué, il n'a pas envie de sortir avec une femme qui est en babouche, qui est mal habillée, qui n'est pas maquillée, qui a des poils longs comme ça. Non, il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Nous les hommes, on aime les belles femmes. Que tous les hommes disent, les femmes, faites-vous belles. Voilà. Vraiment. Non, mais c'est vrai, bien aimé. Oh, moi, je vous dis la vérité. Quand je suis venu dans le Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'avais 22 ans. Quand je suis venu à l'église de Christ, c'était la première fois que je voyais autant de femmes qui étaient moches. Réunies, concentrées en un même endroit. Ça faisait trop peur. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un souci, il y a quelqu'un qui est mort, il y a un décès, ou c'est quoi? Les femmes n'étaient pas belles. Elles ne se maquillaient pas. Non, faites-vous belles. Et dès que parmi elles, il y a une femme qui s'habille vraiment bien, qui est belle, toutes les femmes sont là jalouses. Regarde-moi celle-là. Vraiment, elle veut montrer quoi ici? Oh! Une femme, par exemple, rien qu'avoir un parfum. Certaines femmes, vous ne mettez aucun parfum. Une femme doit avoir des parfums. C'est ce qu'on appelle ici parfum. En usage parmi les femmes. Parfum. Il y en a, vous mettez... Il y a des femmes, tu t'approches et tu fais... Transpiration. Elles sentent la transpiration, elles sont fortes. Certaines femmes, vous avez des odeurs qui sont fortes. Et dès que vous êtes avec l'homme, il est gêné, il ne sait pas comment te le dire. Même dans le mariage, hein. Marie, si tu vois que ta femme, elle a des odeurs bizarres, achète-lui des parfums et des aromates. Les aromates, c'est quoi? Vous savez, ce sont les petites choses qu'on trouve souvent dans les salles de bain avec des pierres, des savons de plusieurs couleurs. Et puis, on verse ça dans l'eau. Et puis, ça rend l'eau bonne, etc. Avec des odeurs et tout, tout, tout. Les aromates, c'est ça. Ça sent la cerise, etc. Tourne-toi vers une femme et tourne-toi vers ton voisin et demande-lui, c'est quoi le parfum que tu mets en ce moment? J'ai pas de parfum. Donc, quelle odeur tu sens en général? Parce qu'en général, en fin de journée, on a beaucoup transpiré et ça devient jaune ici. Je vais vous raconter une histoire. Dis avec moi, pasteur, mets-nous dans la confidence. J'étais jeune, j'étais au lycée Mba, j'étais pas né de nouveau. Mais j'avais déjà des résidus du Saint-Esprit déjà qui m'alertaient sur certaines choses. Et je voulais sortir avec une fille. Elle était jolie. Elle ne se maquillait pas, mais elle était quand même jolie. Et je voulais sortir avec elle. Et un jour, j'ai réussi vraiment à bien l'aborder. Et je lui ai dit, je voudrais t'inviter chez moi. Je n'étais pas chrétien.
D'accord.
Donc, je voulais l'inviter chez moi. On est parti après les cours à la maison. Et puis là, on arrive dans le salon. Et moi, je la regardais, j'avais qu'une seule envie. Je voulais absolument coucher avec cette fille. Je la prends et je l'amène dans ma chambre. Et arrivé dans la chambre, naturellement, il y avait des fauteuils, je la fais asseoir et puis on commence à discuter. Et j'enlève mes chaussures. Quand j'enlève mes chaussures, naturellement, elle aussi veut se mettre à l'aise, elle enlève ses chaussures. Quand elle a enlevé ses chaussures, j'ai eu envie de lui dire une seule chose, remets tes chaussures. C'est-à-dire, j'étais embrasé d'un feu et dès qu'elle a enlevé ses chaussures, c'est comme si on avait pris un seau d'eau et qu'on avait versé le feu, c'est éteint. J'ai fait comme ça. Oh, bien-aimé, ses pieds sentaient. Ça fait 10 années, mais je me rappelle encore. Tellement ça m'avait marqué. Et après, j'ai tapé la discute. J'ai juste tapé la discute. Et très rapidement, j'ai fait, il y a ma mère qui va bientôt arriver, il faut qu'on s'en aille. Elle sentait les pieds. Et quand ma maman est rentrée après à la maison, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça sent les pieds ici. J'ai dit, non, ce sont mes chaussures que j'ai laissées dans la maison. Ah, mais mets tes chaussures dehors, ça sent les pieds ici. J'avais peur de lui dire que c'était en fait une fille que j'avais amenée ici. Les parfums. Ce sont des petites choses, je vous assure, qui font la différence chez une femme. L'odeur. Quand une femme sent mauvais, elle fait fuir tous les hommes. Je vous assure, les hommes, c'est en eux, c'est ancré en eux. Naturellement, ils n'aiment pas les femmes qui ne sentent pas bon. En général, ça en dit très long sur la personnalité de madame. Très, très long. Parfum, l'huile de myrrhe et aromate. Elle fait sa toilette. Alléluia. Allez, j'avance. On va aller très vite maintenant. La troisième étape, très importante, c'est entendre Dieu t'annoncer la saison du mariage. Dis avec moi, entendre Dieu. Parce que la Bible nous dit, au verset 18 du chapitre 2 de Genèse, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est l'Éternel Dieu qui dit. C'est pas toi qui dis, c'est lui qui dit. C'est à Dieu d'annoncer la saison du mariage parce que c'est une conviction que tu dois recevoir dans l'esprit. On n'épouse pas quelqu'un parce que la personne présente bien ou bien parce que tu ressens un peu d'amour pour elle. Non, car naturellement tu peux t'attacher à une personne, mais ce n'est pas parce que ton âme t'attache à quelqu'un que ça veut dire que c'est la bonne personne. Tu dois entendre Dieu te parler par rapport à cette personne-là. Cette saison n'exclut pas bien entendu de fréquenter quelqu'un, mais c'est Dieu qui doit te convaincre que le temps est venu de te marier. Parce qu'il y en a, ils veulent se précipiter. Sache que tu rentres dans une histoire qui doit normalement t'emmener jusqu'à la fin de ta vie. S'il s'agit d'une histoire qui va m'emmener jusqu'à la fin de ma vie, alors je prends mon temps et je laisse Dieu me convaincre que c'est la bonne personne que je vais épouser. Il y a maintenant des discours dans l'église. Oh, tu sais, hein, au bout de 6 mois, 1 an, hein, vous ne pouvez pas rester comme ça. Il faut vous marier maintenant. Les fiançailles de plus d'un an, là, c'est pas bon. Qui a dit ça? Moi, je suis resté fiancé 4 ans avec elle. 4 ans. On n'était pas pressé de se marier. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire entendre Dieu? Ça veut dire que tu dois être sûr que Dieu t'a parlé par rapport à cette personne-là. Tu dois être sûr. Déclencher la saison avant le temps peut être catastrophique. L'Éternel Dieu dit, ça veut dire que Dieu a parlé. Tu dois entendre Dieu te parler. Et le meilleur moyen d'entendre Dieu nous parler, c'est d'aller dans un endroit calme pour être sûr que c'est Dieu qui nous parle et ne pas être dans un endroit où il y a beaucoup de voix qui parlent en même temps. Donc quand on est dans cette période où on se sent bien tous les deux, ok, on se fréquente depuis un certain temps, ça va, tout ça, et puis on ressent des choses fortes l'un et l'autre, ben, y a un moment où on dit, bon, écoute, on va prendre du recul, toi et moi, et j'ai envie de me retrouver un peu seul, voire je prends un temps de retraite pour mon mariage. Bien aimé, ceux qui ne sont pas encore mariés, prenez un temps de retraite. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas eu la jugeote de faire, mais heureusement, je ne me suis pas trompé. Alléluia. Mais pour ceux qui peuvent faire ça, faites-le. Prenez un temps de jeûne et de prière pendant quelques jours. Vous allez seul et vous dites, Seigneur, je prends ce temps de jeûne et de prière pour que tu me parles par rapport à cet homme-là. Pour que je sois sûr que c'est lui. Parle-moi. Donne-moi un rêve, donne-moi un songe, je ne sais pas, mais parle-moi.
Alléluia. Il faut entendre Dieu te parler. C'est très, très important. Parce que la saison du mariage, c'est une saison trop critique. Et il ne faut pas se tromper. Amen. La quatrième étape, c'est une étape aussi très importante. Pourquoi? C'est l'étape que j'appelais le nommage. Dites-moi le nommage. Pourquoi j'appelais cette étape comme ça? Parce que la Bible nous dit que, regarde ce qui est intéressant. La Bible dit que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? Après, il dit, alors je lui ferai une aide semblable à lui. Mais toi, tu t'attends à ce que Dieu tout de suite l'endorme et tire la femme. C'est bizarre, mais juste après, au verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Hein? Qu'est-ce que ce verset vient faire alors que Dieu vient de dire qu'il a besoin d'une aide? Eh bien, quand tu poses la question au Seigneur, le Seigneur te répond, tu sais ce gars-là, Adam, depuis que je l'ai créé, il n'a vécu qu'avec les animaux. C'est Tarzan. Et Tarzan, c'est qui? Tarzan, c'est celui qui se plaît avec les animaux. Donc, pour être sûr que ce gars-là ne se prend pas pour un animal, je veux voir comment il va appeler les animaux. Rappelle-toi, quand Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », Dieu a identifié dans le cœur de cet homme qu'il cherchait quelqu'un. Et il est en train de travailler dans le jardin. Il n'est pas avec les animaux. Mais comme il cherche, Dieu emmène les animaux pour voir si il va choisir un animal pour l'aider. Dis avec moi le nommage. L'étape du nommage est cruciale pour déterminer le futur conjoint. Pourquoi? Parce que dans ta vie, quand tu commences à chercher la personne avec qui tu vas te marier, tu as plusieurs personnes qui viennent et qui ont un profil intéressant. Ton rôle, c'est de les nommer. Tu dis, toi, t'es un lion, je t'épouse pas. Toi, t'es un chien, je t'épouse pas. Toi, t'es un serpent, je t'épouse pas. Toi, t'es un gorille. Tu les nommes. Adam ne s'est pas précipité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es chrétien que la première relation est obligatoirement la bonne. Quand tu es en phase de fréquentation, vous vous observez l'un l'autre pour voir si ce n'est pas un animal qui ne me convient pas. Tu me suis? Il les nomma pour voir quel nom il leur donnerait. Il y en a. Pourquoi ils ont des problèmes dans le mariage aujourd'hui? Parce qu'ils ont épousé un animal. Ils n'ont pas épousé une personne de la même espèce qu'eux. Il y en a, vous avez épousé des lions, mesdames. Le lion, il est caractérisé par quoi? L'agressivité. C'est le roi. Il agresse. Arrête-toi! Un lion. Il y en a d'autres, vous avez épousé des serpents, des vipères. Dès que tu rentres à la maison, tu t'es où? Et te regardes comme ça avec des yeux, tu t'es où? Comme une vipère, elle avait te sauter dessus, etc. Il y en a d'autres, vous avez épousé des gorilles, des... Il y en a, vous avez... Des paresseux. Le paresseux, c'est celui qui dort tout le temps. Tu as un paresseux dans la maison. Il ne veut pas travailler, il ne veut rien faire, c'est un paresseux. Et ton but, c'est d'enchaîner les relations, les unes après les autres, sans coucher avec eux. Hein. Parce que coucher avec eux, c'est s'unir à eux. Le sexe, c'est le mariage déjà célébré. Dieu veut voir comment tu vas nommer les gens qu'il va envoyer vers toi. Il y a beaucoup de gens
de femmes, d'hommes que Dieu envoie vers vous, c'est Dieu qui les envoie. Tu veux te marier? Dieu dit, ok. Il t'envoie un Michael. Michael, toi tu es Mienne. Michael est fin. Michael, dans sa culture, on aime la famille. Toi, tu n'aimes pas trop les choses de famille là. Lui dit, si tu m'épouses, hein, tu épouses mon frère, ma mère, mon père, mes soeurs, tout. D'accord? Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Vous n'êtes pas de la même culture, de la même ethnie. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous marier. D'accord? Mais ça veut dire qu'il y a des différences très fortes. Toi, tu es chrétienne. Lui, il dit, moi, c'est Halakouba. Toi, tu vas aller là-bas. Non, mais pasteur, je vais l'emmener au Seigneur. Tu es sûr? C'est pas quelqu'un de la même espèce que toi. Fais gaffe. Le jour où tu voudras l'appeler Nicolas, il va dire, moi, je l'appelle Mahomet. Qui va gagner entre nous? Il y en a, vous avez épousé des chimpanzés. Le chimpanzé, c'est celui qui va de branche en branche. Il n'est jamais au même endroit. Tu es marié à un homme qui est tout le temps en mission. Il ne fait jamais une semaine à la maison. Chérie, tu vas encore en mission? Je pars encore en mission. Tout le temps, il est en dehors. Il n'est jamais là. Ça, c'est le chimpanzé. Il n'est pas de la même espèce que toi. Toi, tu es un léopard. Tu vas vite. Elle, c'est une tortue. Et tu es tout le temps là en train de dire, mais toi, tu es pasteur, la femme là, c'est pas possible. Elle me fatigue. Elle est lente. J'en peux plus. Pasteur, elle n'est pas comme toi. Qui se ressemble, s'assemble, n'est-ce pas? Mais si tu t'assembles avec quelqu'un qui ne te ressemble pas, c'est compliqué. Dieu voulait voir comment il les appellerait. Donc, épouser la mauvaise personne équivaut à se tromper dans l'attribution des noms. Donc, il faut prendre le temps. Il ne faut pas te presser. Prends le temps d'identifier les gens. Prie et puis nomme-les. Dès que tu as identifié que lui, là, c'est un lion, coupe la relation tout de suite. Ne te prends pas la tête. Un jour, vous étiez là en train de tout ça, tout ça. Et puis un jour, il y a une jeep qui est partie. Bah, oh, excuse-moi, je te demande pardon. Tout ça, tout ça. Oh, oh, oh. Toi, je ne suis pas t'épouser. Jamais. Jamais. Non, mais je vous dis ça, vous rigolez, mais c'est sérieux. Moi, je suis venu, je me suis assis 4 heures ici avec une femme qui venait d'une église, l'Alliance chrétienne. Elle est venue pleurer ici que son gars l'a violentée à la maison. Et elle me demande à la fin de la conversation, « Pasteur, est-ce que je l'épouse ?» Oh, j'ai dit, mais comment tu peux me poser la question? Mais c'est évident que tu ne l'épouses pas. Mais pasteur, si je ne l'épouse pas, oh, la famille, tout ça. Et alors, tu ne l'épouses pas? C'est un démon, ce gars-là. Il va te tuer. Alléluia. Donc, il ne faut pas te tromper à l'étape du nommage. 5. La Bible nous dit que Dieu a plongé l'homme dans un profond sommeil, qu'il s'endormit. Le profond sommeil, l'étape du sommeil, c'est l'étape qui te permet de discerner la place que ton futur conjoint occupera dans ta vie. Cette étape, elle se caractérise par un temps, non seulement où tu ne te précipites pas, mais tu laisses Dieu te convaincre en esprit que c'est la bonne personne. L'étape du sommeil, c'est une étape où on est au repos, on est au calme. Cette étape, dans cette étape, tu laisses Dieu te parler. Tu es au repos. L'étape du sommeil, c'est une étape où nos sens sont au repos. Nos pulsions sont au repos. Tout est au repos. Et on laisse Dieu nous parler. Cette étape, elle est très importante. C'est bon, tu as nommé la personne, tu penses que c'est la bonne personne. Maintenant, rentre en sommeil. En sommeil, ça veut dire tu dors. Ça veut dire quoi? Que tu mets un plat à la relation et tu dis, ok, maintenant on attend que Dieu maintenant donne son accord. On attend. Dis avec moi, on attend. C'est une étape très importante. 6. Cette étape, la Bible nous dit ensuite que Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Dieu a pris une de ses côtes et il referma la chair. Dieu a attiré mon attention sur refermer la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'étape de la chair est une étape qui est très spirituelle. Pourquoi? Parce que dans cette étape, tu devras ressentir dans ta chair que cette personne vient combler un vide dans ta vie. Dieu te met en sommeil. Dieu prend ta côte. Tu te réveilles et tu sens que Dieu a enlevé quelque chose. Qu'il a juste mis la chair. Dis avec moi la chair. Là, c'est une étape où dans ta chair, au-dedans de toi, chaque fois que tu es avec cette personne, tu ressens que cette personne te fait un effet. Mais un effet très positif. Hein? Pas un effet de la libido. Je parle pas de ça. Je parle d'un effet très spirituel. Tu sens que cette personne vient compléter quelque chose dans ta vie. Tu sens dans ta chair que cette personne, elle a un rôle très important. C'est pas quand tu la vois, ton cœur commence à battre vite. Non, tu es serein. Mais tu sens que depuis que tu es avec cette personne-là, il y a quelque chose qui se passe en toi. Par exemple, ça peut être symbolisé par chaque fois que tu es avec cette femme, elle t'encourage beaucoup en ce qui concerne ta vision, tes projets, etc. Et tu sens que cette femme-là à mes côtés, elle va être un catalyseur pour moi. Amen. En gros, elle vient combler un vide. Alléluia. La confirmation de cette étape peut se faire par un rêve, tout comme elle peut se faire d'une autre manière. Et chaque fois que tu seras avec cette personne, tu ressentiras que ce vide est comblé. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Refermez la chair. Dieu prit une de ses côtes et il referma la chair à sa place. Et cette femme est cette côte qui vient combler ce vide. Cette... Ah, elle est très importante celle-là. Oh, 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 oh. Quand l'homme s'est réveillé, la Bible nous dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dis avec moi déclaration prophétique. Dans la relation, ce n'est pas à la femme de faire le premier pas. Ce n'est pas à elle de dire, je veux qu'on se marie. Ça ne doit même pas sortir de sa bouche. Certaines femmes, vous êtes tellement pressées que vous commencez à parler de mariage en premier. Ne faites jamais cette erreur. C'est lui qui doit vous parler de mariage en premier. C'est lui qui doit vous parler de mariage en premier. Mais même après que vous ayez parlé de mariage à plusieurs reprises, il y a une étape où de sa bouche, il doit sortir de sa bouche une déclaration. Il doit te regarder dans les yeux. Chérie, est-ce que tu veux m'épouser? Beaucoup, vous êtes avec quelqu'un, jamais il a fait ça. C'était comme une évidence. C'est l'homme de ma vie, mais jamais c'est sorti de sa bouche. Jamais. Il faut qu'il fasse la déclaration. Il faut qu'il fasse la déclaration. Et quand il fait la déclaration, tu le regardes, mets-toi à genoux. Il faut qu'il fasse la déclaration. Vous savez, quand vous vivez dans le pays des Blancs, ils ont tout un tas de choses qu'ils aiment faire pour impressionner leur dulcinée. Ils font voler des avions avec écrit, est-ce que tu veux m'épouser? Ils font plein de trucs. Chez nous, les Noirs, ici en Afrique, on ne connaît pas ces choses-là. Si tu fais ça, on va dire que tu es ma boule ou je ne sais pas. Mais gars, c'est la femme que tu veux épouser. Comment tu lui as demandé en mariage? La demande en mariage, elle s'est faite comment? Je ne sais pas. Elle peut se faire à 3h du matin au téléphone, je sais pas, mais bon, je sais pas. Est-ce qu'elle peut se faire autour d'un restaurant, je sais pas. Vous êtes en train de vous balader dans un parc et puis tout seul, il t'a regardé, il t'a dit, est-ce que tu veux m'épouser? Je sais pas, comment ça s'est fait? Faut que ça t'ait touché quand même. Mais il y en a, vous êtes ensemble, vous étiez juste ensemble, depuis longtemps vous étiez ensemble, et parce que vous étiez ensemble depuis très très longtemps, donc c'était inévident que vous alliez rester ensemble, et puis le sujet du mariage est venu sur la table, et puis beaucoup même, c'est même pas lui qui a fait la déclaration, ce sont les gens autour de vous qui ont commencé à dire, oh vous allez vous marier quand? Vous allez vous marier quand? On commence à mettre la pression, oui, vous allez vous marier quand? Ah bientôt, on prépare déjà le mariage, mais il ne t'a même pas fait la déclaration. Et puis l'homme se sent forcé, comme avec une chaîne au cou, on l'emmène au mariage. Et puis bon, c'est une évidence. Et puis un jour dans la dispute, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris de t'épouser, toi. Oh, mais s'il avait fait une déclaration inoubliable, tu le lui rappellerais. Mais tu ne te rappelles pas que c'est toi qui m'avais demandé. C'est toi qui m'as demandé en mariage. Moi, je n'avais rien demandé. Il doit faire la déclaration. Qu'une femme dise, il doit faire la déclaration. Donc, si tu es avec lui depuis plusieurs années, vous n'êtes toujours pas marié. Il ne veut pas faire la déclaration. Laisse-le tomber. Laisse-le tomber. Il ne va jamais t'épouser. Combien de couples gabonais ont 50 ans, 55 ans, 60 ans, sont jamais mariés? Ils ont pondu des enfants, ils sont dans la maison, mais madame a toujours son nom de jeune fille et monsieur est toujours là comme un gando en faisant avec une épée d'amoclès sur sa tête, si tu m'embêtes, je pars. Mais il faut épouser. Ça, c'est quel homme qui est avec toi depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans? Il veut maintenant vivre avec toi, il veut maintenant te faire des enfants, tout ça, tout ça, tout ça, mais il ne veut pas t'épouser. C'est bizarre, hein? Ah, tu sais, le mariage. Non, si on est en Christ, si on est en Christ, tu vas m'épouser. Et si tu fais pas ta... Et si tu vois qu'il tarde, tu sens que c'est... Il commence à être constipé quand tu veux parler là. Laisse-le. Pas. Reviens quand tu auras réfléchi. Et quand tu reviens là, fais-moi une vraie déclaration, s'il te plaît. Que ça m'impressionne un peu. C'est vrai. Oh, mais bon, c'est sérieux dont je vous parle là. C'est sérieux. Les Gabonais, le mariage maintenant c'est devenu... Non, le mariage c'est quelque chose de magnifique. Et le gars doit s'afficher. Il doit s'afficher. Il doit être déposé. Il faut qu'il t'amène. Faut qu'il fasse ça bien. Faut qu'il fasse ça doucement, comme disent certains. Alléluia. Donc l'étape de la déclaration, c'est l'homme qui l'initie. C'est pas Dieu. Donc femme, n'épouse pas un homme qui n'a pas fait sa déclaration et sa demande avec sa bouche. Si tu sautes ça, si tu dis, pasteur Luc, tu racontes n'importe quoi, laisse-moi répondre n'importe quoi, va te marier. On se retrouve dans quelques années. La huitième étape de notre processus, elle est très importante. C'est l'étape de quitter son père et sa mère. Parce qu'il dit ensuite, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme quitte ses parents, quitte ce qui est une source pour lui, pour s'attacher à sa femme. D'accord? Il quitte tout ce qui représente une source de vie pour lui. Il le quitte pour aller créer lui-même son propre foyer. Les parents sont des gens bien. Il n'y a aucun problème. Bien que ça arrive chez la femme comme chez l'homme, mais le plus souvent, s'il y a quelqu'un qui reste attaché à ses parents et qui crée des problèmes dans le couple, c'est l'homme. L'étape du quitter est celle où on prend la décision ferme de ne laisser personne s'immiscer dans notre couple et notre foyer, même nos parents. Car beaucoup de couples sont envenimés par la présence des parents. Il faut quitter les parents et il faut faire comprendre clairement aux parents que vous n'avez aucun droit de regard sur mon couple. C'est moi qui décide dans mon couple ici. Alléluia. Donc la rupture doit être affective, culturelle, spirituelle et à tous les niveaux. Mais il faut quitter. Les hommes, vous devez quitter vos parents, surtout la maman. Car s'il y a bien quelqu'un qui aime créer des problèmes à la fille d'autrui, c'est la maman. Il faut laisser les mamans. Votre maman n'a aucun droit dans la maison. Aucun. C'est madame qui décide de tout. Donc, si tu es très proche de ta maman, assure-toi que ça se passe bien avec madame. Parce que c'est important de quitter. Alléluia. Allez, on finit. L'avant-dernière étape, c'est celle de s'attacher à sa femme. S'attacher à sa femme veut simplement dire s'attacher à sa femme. Qu'un homme dise s'attacher à sa femme.
S'attacher signifie vivre et se sacrifier pour elle. S'attacher signifie être fidèle, non polygame, transparent, être un avec elle. S'attacher à sa femme. Je décide de tout abandonner et de m'attacher à elle, quelles que soient les difficultés. Oui, merci les chantres. Merci de commencer à jouer, Luc. Quel que soit ce que nous allons vivre, je décide de faire de cette personne ma chair. Je m'attache à elle. C'est ma femme, c'est mon épouse, elle est mon tout. Je me sacrifie, je suis prêt à mourir pour elle. Beaucoup d'hommes, vous avez tendance à oublier ça. Que le jour où vous avez fait cette confession de foi et que vous l'avez épousée, vous avez décidé de vous attacher à cette femme-là. À la vie comme à la mort, il n'y a pas une autre femme. Comment des hommes, et je sais de quoi je parle, j'ai vécu ça avec mes parents. Comment un homme va être là, va prendre la fille d'autrui, va l'épouser et va encore avoir d'autres femmes dehors? Mais Seigneur Jésus, c'est quoi ces bêtises-là? Tu t'es attaché à elle, c'est ta femme. La Bible dit dans Proverbe, c'est Salomon qui le dit. Il dit, attache-toi à la femme de ta jeunesse. C'est ta femme. Quand tu t'es mise avec elle, elle était pimpante, elle était jolie, etc. Mais si tu ne l'as pas épousée juste pour son apparence, elle peut grossir, elle peut devenir vieille avec des rides, etc. Mais elle reste ta femme. Mais il y a des hommes, c'est comme si la beauté, etc., ne lui plaît plus, il faut qu'il aille voir ailleurs. Pourquoi? Ça c'est quoi ça? C'est ta femme. Car le reste, ce n'est que de l'apparence. La Bible dit dans le livre de Pierre, les femmes, ne vous attachez pas à la parure extérieure. Parce qu'en fait, le mariage, ce n'est pas la parure extérieure, c'est la parure intérieure. Et c'est à ça que l'homme s'attache. Même si ta femme demain, boum, elle a un accident, elle est défigurée, elle ne marche plus, ça reste ta femme. Ça reste ta femme. C'est pas tu es là maintenant tout le temps en train de regarder à gauche et à droite. Tu veux avoir un deuxième bureau, un troisième, un quatrième, un cinquième. Tu es malade. Tu es malade. Qu'une femme dise, ils sont malades, ces hommes-là. Seigneur Jésus. Un homme qui a tout le temps envie d'aller voir ailleurs, il est malade. Il faut qu'il se fasse soigner, interner. Oui, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dis avec moi, s'attacher à sa femme. Et à la fin, c'est l'homme lui-même qui l'a déclaré. Ils deviendront une seule chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que tout simplement, l'union avec cette femme, ce sera une union esprit, âme et corps. Tu t'unis à elle. Tu t'unis à elle. À tous les niveaux de votre vie, vous êtes unis. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer bien fort le Seigneur? Je voudrais qu'on rende grâce à Dieu. Le mystère du mariage. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 33 que nous avons lu hier, Paul dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est un grand mystère. Paul a tiré cette parole d'Éden, de Genèse, où l'homme a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est pourquoi il quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Devenir une seule chair, il n'y a pas de parabole là-dedans encore à tirer. Vous êtes un, vous êtes une seule et même personne. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les crises que vous pouvez rencontrer, vous êtes une seule chair. On ne prêche pas, on n'enseigne pas suffisamment cela dans les églises. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les mariages. Les hommes comme les femmes doivent être conscients que le jour où ils prennent la décision de s'unir avec quelqu'un, ce n'est pas pour se séparer. Parce que vous avez choisi d'être une seule et même personne devant le Seigneur. Chacun a des obligations d'alliance, certes, mais vous êtes une seule et même personne. N'oubliez jamais le seul à seul avec Dieu. La capacité à entendre le Seigneur.
C'est très important. À celui qui veut se marier, à celle qui veut se marier demain, qu'elle prenne son temps, qu'elle ne se précipite pas. Ne regarde pas à l'âge, je t'assure. Je connais des couples où les femmes se sont mariées à plus de 35 ans. Ne regarde pas à ces choses. Écoute le Seigneur. Alors est-ce qu'on peut élever nos voix simplement et rendre grâce à Dieu? Merci pour tous les couples, mariés et non mariés. Merci pour toutes les personnes qui aspirent à se marier. Fais des prodiges, qu'il y ait une onction de grâce et de faveur, Seigneur, sur nos vies. Afin que les mariages te soient totalement consacrés, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Avant de rendre le micro, je voudrais simplement vous donner une information que le Saint-Esprit m'a donné, parce que je l'ai reçu du Saint-Esprit et nous allons le faire dimanche. Le Saint-Esprit m'a dit, dimanche vous allez prier, on va prier pour les célibataires qui aspirent au mariage, un. Ensuite tu prieras pour les couples non mariés, tu vas prier pour tous les couples non mariés, que ce soit les couples non mariés qui sont ici ou bien si tu viens seul et que tu es avec quelqu'un qui ne vient pas à l'église, que ce soit un croyant ou un non-croyant, mais vous êtes ensemble, vous avez des enfants ensemble, peu importe, nous allons prier aussi pour cela. 3, tu vas prier pour les couples mariés, ceux où tout va bien et même ceux qui ont des soucis, tu vas prier pour eux aussi. Et enfin, tu vas prier pour tous ceux qui étaient mariés et qui ont connu le divorce et qui veulent se remarier. Tu vas prier aussi pour eux. Alléluia. Que la gloire, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.